Alors, sur la Russie et la crise géorgienne, un sommet européen va se tenir sur cette question. Que peut délivrer comme message l'Europe quand on voit que l'Europe est un nain militaire, qu'elle n'a toujours pas d'avion, par exemple, pour transporter ses troupes? Que peut faire l'Europe, sinon gesticuler et rappeler Moscou à ses droits et à ses devoirs? Mais est-ce qu'un sommet européen comme celui-ci, celui qui va se tenir,
sommet européen annoncé le 1er septembre à Bruxelles.
Le 1er septembre à Bruxelles.
C'est annoncé tout à l'heure.
Vous êtes injuste, monsieur Revel. Vous êtes injuste parce que la diplomatie européenne, incarnée dans le cas présent par le président de la République Nicolas Sarkozy, a eu un rôle crucial. Vous savez, on a toujours tendance à considérer que ce qui a été acquis, dans le fond, ne compte pas ou a été acquis facilement. Obtenir un cessez-le-feu dans les jours qui ont suivi, c'était le devoir de l'Europe, et en l'occurrence, c'est la France qui a porté cette exigence, et Nicolas Sarkozy a bien fait de se rendre à Moscou, bien fait de se rendre en Géorgie, et bien fait de se soucier de l'application rapide de ce cessez-le-feu. Alors, pour autant, le problème n'est pas réglé, mais qui pourrait penser qu'une crise de ce type va se régler en un jour? C'est extrêmement difficile, parce que nous sommes là, dans une bataille de principes. Il y a d'un côté la défense de l'intégrité et la souveraineté d'un pays, la Géorgie. De l'autre côté, il y a la position russe qui considère que sa souveraineté, les minorités russes, que l'histoire ne font pas de l'Abkhazie et de la même façon pour l'enclave de l'Ossétie du Sud un véritable territoire géorgien. Donc nous sommes là dans une confrontation dure. Cette confrontation dure nécessite du temps, nécessite du dialogue et nécessite des mesures de confiance qui nous permettent peu à peu de rétablir le dialogue avec la Russie.
Mais quand vous écoutez les pays de l'Est aujourd'hui, la Moldavie qui a aussi en son sein une république séparatiste proche de Moscou, quand vous lisez des comptes rendus de la presse ukrainienne qui dit on a peur parce que la marine russe est au port dans le port de Sébastopol, les ex-satellites soviétiques ont une énorme crainte, c'est que la Géorgie ne soit qu'un terrain d'essai finalement pour Moscou.
Mais il nous faut gérer tout cela. Et de ce point de vue-là, le sommet européen est bienvenu parce que chacun voit bien les inquiétudes, les peurs, les réticences, voire même les critiques d'un certain nombre de ces pays, de la Pologne et d'autres. Il faut expliquer les priorités, définir et s'entendre sur des modalités d'action. Je pense d'ailleurs que le moment venu, il faudra aller au-delà d'une conférence européenne pour avoir une véritable conférence type CSCE, comme nous l'avons connu dans le passé, avec la Russie et les États-Unis, pour déterminer un modus vivendi. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut sortir de cette logique où chacun met de l'huile sur le feu. Quand vous avez les États-Unis qui signent avec la Pologne un accord de déploiement d'un bouclier antimissile sur le territoire polonais, il est évident que c'est perçu comme une agression par les Russes.
Il ne fallait pas le faire. Mais il fallait laisser les Polonais à leurs incertitudes.
Je pense qu'il faut gérer.
Vous pensez?
Non, je pense qu'il faut bien évidemment répondre aux préoccupations polonaises, mais je vous rappelle que pour l'essentiel, ces préoccupations polonaises ne sont pas officiellement dirigées vers la Russie, mais dans le cas présent, vers l'Iran. Je pense qu'il faut gérer les choses dans le temps et qu'il est essentiel de rétablir une confiance qui est indispensable. C'est l'intérêt de tous. Nous voyons bien, par ailleurs, que dans cet imbroglio à la fois juridique, politique, il y a une donnée économique extrêmement lourde qui pèse. Toute cette région caucasienne constitue un enjeu très important sur le plan pétrolier et sur le plan gazier. Donc ce ne sont pas des choses qu'on peut traiter à la légère. Il faut prendre le temps de la négociation et bâtir peu à peu des mesures de confiance qui nous permettent de rétablir les choses.
Sur le plan des principes, comment pouvons-nous expliquer aux Russes, nous qui avons soutenu le Kosovo qui voulait être indépendant de la Serbie, qui n'ont pas raison d'accepter de soutenir l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui demandent à être indépendants de la Géorgie? Deux poids, deux mesures.
Monsieur Boujol, je l'ai dit au moment de l'indépendance du Kosovo, et c'est bien pour cela que la vérité n'est pas à sens unique. Aujourd'hui, dans la politique russe et dans la psychologie russe, il y a la même inquiétude, le même sentiment d'humiliation que peuvent ressentir d'autres pays en face. Il faut prendre en compte l'ensemble de ces préoccupations et tourner vers l'avenir, tourner vers une relation qui soit au bénéfice de tous. L'Union européenne a de formidables atouts sur le plan économique, formidables atouts sur le plan stratégique. Faisons en sorte d'apporter une perspective supplémentaire aux Russes qui intéresse la Russie et ne lui donne pas le sentiment. Et je pense que de ce point de vue-là, la construction d'une logique de l'OTAN est à rebours de l'histoire. L'OTAN, alliance défensive, qui tente aujourd'hui à devenir un organisme global, voire à se substituer aux Nations Unies dans certains cas, ce n'est pas une bonne chose. Parce que cela perpétue justement ces clivages du temps de la guerre froide et qu'il est essentiel avec les Russes, avec l'ensemble de nos voisins, de sortir de cette logique.
Tout le monde a noté dans cette crise géorgienne, pardon, une certaine brutalité de l'armée russe. Et puisque vous parlez des principes, ne pensez-vous pas que vous-même, quand vous étiez à la tête de la diplomatie française, vous avez manqué de rappeler ces principes à Vladimir Poutine, qui a fait faire à son armée des choses en Tchétchénie, très éloigné
Préoccupé de la politique intérieure française et ne suivant pas assez la politique étrangère, parce que si vous l'aviez fait, vous sauriez que je suis le seul ministre des Affaires étrangères à m'être rendu à Moscou et à faire une conférence de presse quand j'étais ministre et à dire publiquement, officiellement à Moscou qu'il y avait en Tchétchénie une véritable guerre et que cette guerre était inacceptable.
C'était plus que ça, c'était de la torture du peuple tchétchène rasé, ça n'était plus une guerre, c'était de la barbarie.
Voyez-vous,
vous le savez, Dominique de Villepin.
Bien sûr, mais voyez-vous, monsieur Apathy, l'important dans les relations internationales, c'est de ne jamais oublier de se mettre à la place de l'autre. Vous parlez de torture. Vous êtes sensible à ce qui se passe en Tchétchénie, et c'est bien normal, je le suis aussi. N'oublions pas que dans le regard des autres, ce Sud, ceux qui se situent de l'autre côté de la planète et qui constituent aujourd'hui une part croissante, qu'est-ce qu'ils voient, eux ? Guantanamo, Abu Ghraib, les prisons secrètes.
Oui, mais monsieur le président monsieur de la République a décoré Vladimir Poutine
ce que je vous
à l'Élysée en 2005.
Et il a reçu, monsieur
Bush, sachant tout ce qui s'était passé. Vous comparez, vous mettez les deux sur le même plan ?
Je considère, parce que je voyage beaucoup, c'est une chance que j'ai, quand je me déplace dans le Golfe, quand je me déplace en Asie, quand je me déplace dans un certain nombre de pays, les images que l'on voit ne sont pas les mêmes que ceux que nous voyons. Et il est essentiel de regarder le monde, non pas en donneur de leçons, en permanence dans le domaine des droits de l'homme, en permanence dans le sens de la démocratie, mais de comprendre aussi la préoccupation des autres. Nous devons
l'Europe occidentale n'a-t-elle pas été trop complaisante vis-à-vis de Vladimir Poutine ? C'est ça la question. Est-ce qu'on n'a pas été trop complaisant avec Vladimir Poutine ?
Exemplaire, et nous ne le sommes pas toujours. Donc, faisons en sorte de ne pas avoir...
C'est vous qui disiez que...
Je vais vous en sortir un nouveau principe.
Une diplomatie devait être arrimée au principe.
Bien sûr, mais c'est bien pour ça que je n'ai jamais cédé la garde sur la Tchétchénie. Nous ne manquons pas, depuis des décennies, de crier en l'air sur la nécessité de l'indépendance de la Palestine. J'étais en Palestine il y a quelques semaines. Voilà un domaine, un dossier, dans lequel le droit international est extrêmement clair. Toutes les résolutions des Nations Unies disent qu'il faut construire un État palestinien. Et nous ne le faisons pas. Comment pensez-vous que c'est interprété dans les territoires palestiniens ? Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de mouvements, le Hezbollah, le Hamas, ne tirent pas profit de cette situation ? Je crois que quand on a le souci de la justice, on ne doit pas diviser ce sentiment de la justice. Et on doit à chacun rappeler cette exigence. Nous devons le faire vis-à-vis de l'ensemble des nations et nous devons l'appliquer à nous-mêmes.